VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 18h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba, en campagne à 3 semaines de l'élection présidentielle dans le pays, a inauguré aujourd'hui un nouveau port minéralier en périphérie de Libreville, la capitale, dont la construction, qui a duré 12 mois, a coûté plus de 130 millions d'euros. Le Gabon est open for business, ouvert aux affaires, a lancé le président Bongo lors de cette inauguration. Ali Bongo Ondimba a diversifié les partenaires économiques du pays depuis son élection en 2009 à la mort de son père. Il a également pris des mesures afin de sortir le Gabon de sa dépendance des ressources pétrolières qui ont fait sa richesse dans les années 70. Des secteurs comme les bâtiments, travaux publics, l'exploitation forestière et minière ont ainsi vu arriver de nombreux investisseurs étrangers, notamment asiatiques. Ali Bongo Ondimba est candidat à un deuxième mandat lors de la présidentielle du 27 août. Le Soudan du Sud a rejeté aujourd'hui une proposition des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer 4000 soldats supplémentaires sur son territoire en soulignant qu'elle porte gravement atteinte à sa souveraineté et menace d'un retour au colonialisme. Les précisions de Nathalie Barge.
Le porte-parole du gouvernement sud-soudanais, Michael Makuei, a déclaré que la proposition donne aux Nations Unies la capacité de gouverner. Le texte appelle notamment un vote d'embargo sur les armes au Soudan du Sud si le secrétaire général Ban Ki-moon rapporte dans une période d'un mois que les autorités ont bloqué la force régionale. Le Conseil de sécurité pourrait voter vendredi sur la proposition. Après la reprise des combats le mois dernier, un ancien envoyé spécial américain avait suggéré que l'Union africaine et l'ONU administrent temporairement le pays. Des responsables onusiens disent que le gouvernement a commencé une répression en saisissant des dizaines de passeports de travailleurs de l'organisation et en imposant des restrictions sur les voyages et la livraison de l'aide alimentaire. La reprise de combats meurtriers le mois dernier dans la capitale Djouba, après l'accord de paix signé en août 2015, a suscité la crainte d'une nouvelle guerre civile et aggravé la crise humanitaire au Soudan du Sud.
En RDC, l'ONU invite les responsables politiques au consensus sur le processus électoral à 4 mois de l'échéance du mandat du président Joseph Kabila. L'organisation internationale a lancé cet appel alors qu'une coalition d'ONG congolaises demande à l'ONU de retirer son soutien à la Commission nationale électorale indépendante, CENI, qu'elle accuse de faire le jeu du pouvoir. Le point avec Eddy Sango.
Au-delà des questions techniques et logistiques, il faudrait que les acteurs politiques congolais de la majorité et de l'opposition puissent s'entendre pour s'écouter, discuter et trouver un consensus sur la façon dont ils veulent conduire les processus électoraux au Congo et communiquer cette information à leurs partenaires, a déclaré à Kinshasa les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mamadou Diallo. Pour lui, le consensus permettra à l'ONU de déterminer les niveaux, les rythmes et la séquence de son accompagnement au processus électoral. Mais ce Diallo a rappelé que l'ONU a un rôle d'accompagnement et de soutien, mais pas de substitution aux institutions congolaises. Les élections devant se tenir cette année ne pourront avoir lieu qu'en 2017, a récemment déclaré le président de la CENI, qui a lancé début juillet l'enrôlement des électeurs. L'opposition a récusé les facilitateurs désignés par l'Union africaine pour les dialogues politiques et accuse le président Joseph Kabila de manœuvrer pour rester au pouvoir au-delà de 2016 sans élection. M. Kabila ne devrait pas se représenter pour un troisième mandat selon la Constitution.
En RCA, Jean-Francis Bozizé est maintenant en liberté provisoire, mais il reste dans le collimateur de la justice. Le fils de l'ancien président centrafricain, François Bozizé, a été libéré hier après avoir été entendu par un juge au tribunal de Bangui. Il avait été arrêté le 5 août et maintenu pendant 4 jours à la SRI, la section des recherches et d'investigation de la gendarmerie de Bangui. Notre correspondant Freeman Sipila fait le point.
Après une première audience avortée lundi, c'est finalement tard dans la soirée du mardi que Jean-Francis Bozizé a été auditionné par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bangui. Après avoir pris connaissance des charges qui pèsent contre lui, l'ancien ministre délégué de la Défense sous le règne de son père François Bozizé est autorisé à recouvrer provisoirement sa liberté. Jean-Louis Opalaya, un de ses avocats, qualifie d'un dossier vide les faits reprochés à son client.
Il doit attendre une convocation et on reviendra plus tard pour qu'il puisse donner sa version des faits qu'on lui reproche par rapport aux infractions dont la teneur lui a été donnée. Et il a sa version des faits qu'il n'a pas donnée aujourd'hui. Il s'est réservé de le faire dans les jours à venir. Pour le moment, je peux dire que c'est un dossier qui est vide.
Placé sous contrôle judiciaire, Jean-Francis Bozizier est interdit de toute sortie de la capitale centrafricaine. Il est privé de ses libertés fondamentales et devra s'exempter de porter une arme. Tout comme son père, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour assassinat, arrestation arbitraire, séquestration, détournement des deniers publics et actes de nature à compromettre la paix publique. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, arrêt des combats qui avaient commencé hier près de Kidal, dans l'extrême nord-ouest, entre ex-rebelles et membres d'un groupe armé pro-gouvernemental, le Gatia. Les hostilités ont opposé des éléments de la CMA, la coordination des mouvements de la Zawa, la dominante Touareg, aux forces du groupe d'autodéfense Touareg, Imgad et allié Gatia, qui appartient au mouvement de la plateforme, une coalition pro-gouvernementale. Les deux camps s'étaient déjà affrontés les 21 et 22 juillet à Kidal même, puis le 30 juillet à une quarantaine de kilomètres à l'est de la ville. Pas de bilan des tout derniers affrontements jusqu'à présent. Et toujours au Mali, l'armée malienne a annoncé aujourd'hui avoir récupéré les corps de 5 soldats portés disparus depuis une attaque lundi dans la région de Mopti, dans le centre du pays. 4 corps ont été retrouvés mardi, un cinquième ce mercredi matin dans le secteur de Tenenkou, a affirmé un responsable du service de communication de l'armée. À ce stade, on ne peut pas préciser la cause de la mort. Nos services examinent encore les dépouilles, a ajouté ce responsable sans plus de détails. Les 5 soldats étaient portés disparus depuis l'attaque contre l'opposition lundi, qui avait été précédée d'une embuscade dimanche contre un convoi de ravitaillement, d'après plusieurs sources militaires maliennes. Une de ces sources attribue l'assaut, l'attaque en question, au groupe djihadiste malien en sardine. En Libye, les forces pro-gouvernementales libyennes disent avoir pris aujourd'hui le contrôle du campus universitaire à Sirte, resserrant encore plus l'étau autour du groupe État islamique dans cette ville du nord du pays. Les forces du GNA, le gouvernement d'Union nationale, sont entrées le 9 juin à Sirte, mais leur offensive pour enchasser le groupe Diadis EI a été ralentie par les snipers, les mines et les voitures piégées. Sous la pression des forces du GNA, les Diadis ont été contraints aujourd'hui de fuir le campus et de se replier sur un secteur tout proche situé entre l'université et le complexe des salles de conférence Ouagadougou, où se trouve le centre de commandement de l'État islamique dans cette ville. Toujours en Libye, 6 pays occidentaux exigent que le contrôle de toutes les installations pétrolières libyennes revienne sans réserve ni délai, sans condition préalable aux autorités légitimes du pays, le GNA, le gouvernement d'entente nationale. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont fait une déclaration en ce sens. Campagne présidentielle aux États-Unis maintenant, avec une nouvelle controverse autour de Donald Trump, l'aspirant républicain à la Maison-Blanche. La déclaration qu'il a faite en accusant la candidate démocrate Hillary Clinton de vouloir abolir le deuxième amendement de la Constitution américaine qui garantit le droit de porter des armes suscite un véritable tollé, Jean-Roger Bion.
S'adressant à des partisans hier en Caroline du Nord, Donald Trump a laissé entendre que seuls les défenseurs du port d'armes étaient à même de stopper son adversaire démocrate, Hillary Clinton, ou les juges qu'elle pourrait nommer à la Cour suprême américaine. Cette déclaration a aussitôt provoqué un nouveau tollé. Elle a en effet été interprétée par de nombreux médias et observateurs comme un appel à user de la violence pour stopper Mme Clinton ou des juges. « Si elle a la possibilité de choisir ses juges, il n'y a rien que vous puissiez faire, les gars », a dit M. Trump. « Quoique avec le second amendement, peut-être qu'il y a une solution, je ne sais pas », a-t-il ajouté, laissant sa phrase en suspens. Dans un communiqué, l'équipe de campagne de Donald Trump a qualifié les médias de malhonnêtes, affirmant que M. Trump voulait simplement dire que le groupe très soudé des défenseurs des droits du port d'armes empêcherait Mme Clinton d'être élue en votant massivement pour Donald Trump.
Et pour terminer la lutte contre Boko Haram au Sahel, les États-Unis ont promis 37 millions de dollars supplémentaires pour venir en aide aux populations de la région du lac Tchad, très touchée par l'insurrection djihadiste de Boko Haram. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les diplomates américains. Cette enveloppe s'ajoute aux 318 millions de dollars déjà versés depuis 2015 par Washington pour apporter un soutien humanitaire à la région. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Monsieur Juna.